Salut les marques et les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis à Ringside et vous écoutez votre podcast qui transpire le catch. Pour m'accompagner cette semaine, l'éminent Amiral Armbar. Comment ça va, Amiral?
Ça va très bien après ce Royal Rumble de bon cru, comme nous on en discute sur le chat hein, avec Galuf et Tony. Et surtout, le début de cette Road to WrestleMania, ça y est, on y est, on commence cette partie de l'année où plein de choses se passent, beaucoup d'espoirs, souvent qui sont brisés, mais peut-être certains qui sont réalisés, donc on croise les doigts.
Voilà, le départ est lancé pour la route vers Mania, salut les copains sur le chat. Donc voilà ce fameux Royal Rumble, ce week-end énorme, week-end de catch avec un NXT TakeOver qui était aussi hallucinant, on a tout débriefé ça dans une émission de catch-up, n'hésitez pas à aller la consulter, que ce soit pour le TakeOver ou pour le Royal Rumble, c'est pareil, on a aussi tout décortiqué. Voilà, la poussière est tombée, on a eu un petit changement de titre au niveau des tag teams, puisque oui. The Bar a récupéré le titre suite à la défection, on va dire, de Jason Jordan, qui a abandonné son partenaire Seth Rollins suite à ce qui ressemble fort à une commotion cérébrale. Hein,
ah oui, en tout cas, il avait l'air off.
Off, oui, il n'avait plus l'air d'être trop là.
Il n'y avait plus personne.
Plus de son, plus de lumière. Et surtout, la grande gagnante du Rumble féminin, Asuka, la magnifique Asuka, qui donc a éliminé tout le monde. On lui a demandé de choisir qui elle devait affronter. Parce qu'ils avaient le droit.
Hein. Et oui, c'est ça.
Championne d'affronter soit Alexa Bliss, soit Charlotte. Et elle n'a pas eu le temps de décider, puisque a débarqué le nouveau grand nom de la WWE, Ronda Rousey, la championne de l'UFC. Elle est désormais signée à la WWE et elle a bien l'intention d'allier à WrestleMania, hein, d'après ce qu'elle nous a montré du bout du doigt, à ce Royal Rumble, dans un sourire limite du mode de psychopathe. Voilà, elle était habillée dans une veste qui appartenait au Hot Rod, oui. Roddy Piper.
C'est pour ça qu'elle était 5 tailles trop grande pour elle. Hein. C'est pas un fashion faux pas, c'est juste que c'était la vraie veste de Roddy Piper. Donc voilà, c'est grande admiration apparemment de Ronda Rousey pour Roddy Piper, d'où le look, le design hein, de son t-shirt qui est la copie conforme, on peut dire ça.
Ouais.
Donc voilà. D'ailleurs, c'était assez bizarre ce segment. Fin du Rumble, elle pointait du doigt, c'était un peu confus, elle repointait.
Oui. Elle est venue aussi serrer la main de Stephanie McMahon, qui est au commentaire.
Qui a serré la main, mais en grinçant bien des dents, puisqu'on se rappelle, il y a 2 ans ou 3, je ne sais plus, à WrestleMania, il y avait eu Le Rock et Ronda Rousey face à Triple H et Stephanie dans le ring. Et puis, la dernière fois qu'elle s'était croisée la main, bien Ronda Rousey lui avait un peu cassé le bras à Stephanie. Donc, elle n'était pas toute joyeuse de serrer la main de Ronda. Et elle a aussi tendu la main à Asuka, qui a fait mine de la serrer. Puis, au dernier moment, une petite claque sur la main, genre non, je m'en fous. No one is ready pour moi, même pas toi.
C'est ça. D'ailleurs, c'est une des spécialités aussi de Ronda Rousey à l'UFC, de ne pas serrer la main de ses adversaires.
Ouais.
Écoute, c'est parti. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, un petit peu de ce Rumble ?
Du coup, bon, très rapidement, le Rumble masculin, je suis très content du résultat. C'était un très bon match pour le Rumble. Ça faisait longtemps que j'avais pas été content d'un match comme ceci. J'adorais le carré final entre Baylor Nakamura versus Reigns et Cena. Malgré les callings un peu trop visibles de Cena. Hein. Maintenant, Shinsuke, maintenant. Voilà, si vous voyez pas de quoi on parle, voilà, vous pouvez regarder son aide, vous trouverez des trucs. Mais cette affiche, ce carré était vraiment très cool. Hein. L'ancienne génération, on va dire, plutôt les produits WWE versus ceux du Japon, hein, parce que c'était vraiment ça. Même si j'aurais bien aimé une petite victoire de Balor, Nakamura était mon second choix, donc très cool. Et puis de le voir aller vers AJ Styles quand on a vu leur match phare à West Kingdom il y a quelques années, on se dit qu'on va avoir un très chouette match pour la ceinture mondiale à Mania, et ça c'est très cool. En ce qui concerne le Rumble féminin, comme on discutait, c'était pas aussi catastrophique que ça aurait pu l'être, même s'il y a eu des. Moi, j'ai eu des grandes frayeurs. Hein. Michel McCool m'a fait très très peur de nombreuses fois. Je fais, ouah. Lita aussi, hein, Lita, son espèce de moonsault à ras du sol me fait toujours avoir des frayeurs. Et là, j'étais. Vu que ça fait longtemps qu'elle a pas fait, j'avais quand même
très inquiet sur Lita, surtout avec cette espèce d'étrange pantalon qu'elle portait là.
Ouais.
Mais c'était pas aussi catastrophique.
Non. Et maintenant, voilà, la gagnante Asuka, on disait de nombreuses fois que ça ne pouvait pas être elle, qu'elle allait gagner tellement que c'était évident. Bah, ils ont choisi la logique et la continuité, aller vers celle qui était la plus forte hein, depuis des mois. Donc pourquoi pas, c'est pas gênant, même si bon, elle aurait pu avoir un title shot à Mania sans avoir remporté le Rumble, mais c'est vrai que je voyais pas trop qui aurait pu bénéficier très logiquement d'avoir ça, sachant que ben on intègre derrière Ronda Rousey. Donc si on avait fait gagner par exemple une Bayley, qui aurait pu être un bénéfice, une Becky Lynch, et derrière il y a Ronda qui débarque, bah tout le momentum de la victoire du Rumble, elle est off, il y a plus rien pour elle. Alors que Asuka, même si elle bénéficie moins de cette espèce de feel good moment de j'ai gagné le Rumble, bah ça reste Asuka, ça reste l'impératrice, ça reste l'invaincu, donc du coup elle reste encore legit dans tout ça. Donc du coup c'était je pense le moins mauvais choix qu'il y avait, si le finish de toute façon c'est Ronda Rousey qui débarque et qui vole un peu tout le spotlight.
C'est là, quelque part on respecte la logique, c'est pas plus mal, c'est ça fonctionne aussi quand on est dans le même dans l'attendu, c'est pas bien grave. Sachant qu'effectivement Asuka le panache est toujours là puisque elle est toujours invaincue. Grosse perf de Sasha Banks aussi, on verra que ça va jouer dans le Monday Night Raw de ce soir hein, parce qu'elle est un peu l'Iron Woman de du match hein. Elle est restée quasiment 50 minutes je crois dans le match. Voilà, bon, on va attaquer quand même ce Monday Night Raw hein, parce qu'on est là pour parler de ça hein, ici toutes les semaines hein, on vous parle de Monday Night Raw. Donc ça se passait toujours à Philadelphie, ouais, toujours au même endroit que le Royal Rumble. Et au programme de ce soir, donc Asuka a droit à son moment hein, ça y est, on se qualifie pour se faire éliminer, défense du titre tag team et match revanche pour le titre intercontinental. Grosse affiche pour ce Raw post Rumble. Jonathan Coachman est de retour, on est enfin libéré de Booker T.
Oh. Moi j'aimais coach. Bien Booker.
Oui, c'était oui, drôle. C'était rigolo ce mec qui radotait et qui était complètement à côté de la plaque.
Il y aura plus ces Quack et je ne sais quel autre. Voilà, Coachman revient, ça donne un petit côté un peu plus pro peut-être, un peu plus comment. Acteur sportif hein, et moins dans la déconne, moins dans le fun que Booker T qui avait des expressions complètement what the fuck. Voilà.
C'est ce que j'allais dire, on est moins dans le what the fuck, c'est un peu plus pro.
Je crois qu'il retourne à la politique là, peut-être pour ça qu'il a un planning plus léger.
D'accord.
Je sais pas. Mais
c'est possible.
On a des nouveaux designs aussi, hein. Nouveau logo de Raw, nouvel habillage qui est super classe. Moi, j'avais beaucoup aimé tout ça. Ça fait un truc assez léché, assez moderne, très 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 cool.
Ouais, très clean, rouge et blanc pour changer un petit peu.
Ouais.
J'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, c'était très bien réalisé cet épisode de Raw. Avec des petites touches très subtiles. Et ça démarre, une fois n'est pas coutume, par Stephanie McMahon qui arrive au ring. Bon, elle nous rappelle qu'on a fait l'histoire, elle nous fait un petit résumé du Rumble. Et elle accueille la gagnante, Asuka, puisque c'est l'heure de faire son choix pour Asuka. Qui va-t-elle affronter? Parce qu'on ne sait toujours pas. Est-ce que ce sera Alexa Bliss? Est-ce que ce sera Charlotte? Mais elle lui la met en garde avant de choisir Stephanie McMahon. Il faut savoir que l'histoire va être faite à nouveau dans les semaines qui viennent, puisque l'Elimination Chamber comptera un match Elimination Chamber féminin. Et que à ce moment-là, Alexa Bliss pourrait très facilement perdre sa ceinture. Donc, même si elle fait son show aujourd'hui, Asuka, c'est pas sûr qu'elle affronte Alexa Bliss si, admettons, elle choisit d'affronter la championne d'Euro. Donc, Asuka prend la parole, elle remercie la foule, arigato pour tout le monde, et puis elle commence à baraguiner en japonais. Donc, toi et moi, on a compris, hein, parce qu'on parle parfaitement japonais.
Exactement.
Et bon, le public est un peu perplexe.
Ouais, je trouvais quand même qu'ils étaient, étaient à fond derrière elle, hein. Dès qu'elle faisait sa petite phrase en japonais, même s'ils comprenaient pas, par l'énergie, par son mimique, par son visage, ils étaient là en train d'applaudir ou d'ovationner, donc ça
C'est
n'a pas
vrai.
trop gêné, j'ai trouvé ce.
C'est vrai, je suis un peu méchant. Mais disons que si elle avait parlé en anglais, ça aurait peut-être été encore plus
Ouais,
percutant.
c'est sûr.
Mais bon, son moment est de courte durée, puisqu'une musique retentit. C'est Sasha Banks, The Boss, The Legit Boss qui débarque. Et elle nous explique qu'elle est ready, elle, pour Asuka. Elle est prête pour Asuka. Elle nous rappelle hein, qu'elle a fait une performance exceptionnelle au Rumble. Donc ce soir, elle veut la peau d'Asuka. Et le match est booké directement par Stephanie McMahon. Donc on aura ce soir Asuka contre Sasha Banks. Alors, un petit mot là-dessus?
Ouais, bah c'est bien de donner effectivement le petit d'ouvrir ce Raw avec en mettant en valeur la gagnante Asuka puisque elle s'est fait un peu couper l'herbe sur le pied, le spotlight sous le pied hier, hein, enfin la veille. Hein, c'est bien et j'ai encore une fois très content de voir Banks là arriver plus edgy, plus agressive. Plus telle qu'elle était à NXT, hein, quand elle était heel, The Boss, quoi, réellement, et c'est ce que j'avais vu au Royal Rumble lorsqu'elle élimine Bayley notamment, et je croisais les doigts pour qu'il continue sur cette direction-là, et c'est ce qui semble être, et comme on le verra quand on parlera du match, ça paye, hein, parce que là, elle
Exactement.
revient de loin, et rien qu'en promo, Sasha Banks en promo qui était ultra naze. Depuis 6 mois, même peut-être plus, j'en sais rien, qui donnait rien. Dans le ring, c'était cool, mais en promo, c'était naze. Et bien là, en juste 3 minutes, on a l'impression de redécouvrir un peu ce qu'elle peut donner. Et tu fais ça y est, enfin quoi. Enfin, ils se sont dit, ça y est, ça marche pas, son personnage ne marche pas, et ça ne va nulle part. On arrête d'en faire la meilleure amie de Bayley, qui elle non plus ne marche pas, et on revient à quelque chose qu'on sait qui marche et qu'elle sait faire. Bah voilà, ça, son même personnage, mais version heel. Ce qui prend bien plus sens qu'en version face. Aucun
Ouais, tout à
face va
fait.
dire oui, je suis la boss, je suis meilleur que tout le monde. En tant que face, ça fait un face arrogant, ça fait limite un face à Jason Jordan, un peu mi-figue mi-raisin, mais juste la fille qui sourit, qui raconte qu'elle était fan d'Eddie Guerrero quand t'es gamine et que c'est son rêve. Il y en a 15 autres comme toi dans le roster, donc arrêtons tout et revenons à ce truc-là, et c'est vachement mieux. Et j'ai bien aimé l'intensité qu'elles avaient, les deux commençaient à se parler, on n'entendait pas, mais à se trash-talker, Stéphanie a dû les séparer, elles étaient limite front contre front, tu fais ok, là j'ai envie de voir ce match, clairement. Donc c'était très cool.
Tout à fait, tout à fait. Le Rumble a donné une bonne idée de ce qui fonctionne à WWE
Ouais.
en ce moment, et j'ai l'impression qu'ils en ont pris note. Et comme tu dis, effectivement, Sasha Banks, c'est beaucoup mieux quand elle est heel. Et puis ce segment-là, bah on a fait un segment, on a monté un segment comme les mecs. Donc du coup, bah ça fonctionne beaucoup mieux. Pas de chichi, pas de d'histoire de ma meilleure amie, gna gna gna. On vient s'affronter façon mec, et puis c'est ce qu'il faut. Donc
Ouais,
on verra que
ça y est.
ça s'effrit encore après. Hein.
C'est ça, de toute façon, ils vont être obligés de faire ça, puisque là, on nous a encore sorti, ok, le mois prochain, pour la première fois d'histoire, un match Elimination Chamber pour les dames. À mon nez, ils vont arriver à court hein, de toutes les premières fois qu'ils vont pouvoir faire. Ils en ont déjà fait plein, les Hell in a Cell, les Money in the Bank, Royal Rumble, maintenant Elimination Chamber. C'est bon, tous les matchs avec gimmick étaient réservés aux mecs, maintenant les filles, à la fin de cette année, là, 2018, il n'y aura plus rien. Elles auront tout fait. Donc il va falloir commencer à les booker effectivement aussi comme les mecs et si ce qu'on voit ce soir c'est le début de ce qui va suivre ben ok tant mieux c'est plutôt bon signe.
Exactement, ça commence très bien cette route
Alors non
vers
pas
WrestleMania.
je réponds à Maxence qui dit bientôt le premier Woman Flag Match Flag on the Pole Match non. Vous pouvez, s'il vous plaît, WWE, vous pouvez vous passer du premier Woman Flag on the Pole match. Merci.
Ouais, on a déjà eu un Kendo Stick on the Pole match, on a vu ce que ça a donné.
C'est vrai!
Quelle horreur! Bon, avançons. Premier match pour la qualification pour le Elimination Chamber. Et tenez-vous bien, c'est un last man standing entre les deux monstres qui se seront affrontés pour le titre de l'univers au Royal Rumble dans un triple threat où il y avait aussi Brock Lesnar, le champion évidemment, hein, parce qu'on ne peut pas faire de match de championnat universel s'il n'y a pas le champion dedans.
C'est
Donc
compliqué.
c'est Braun Strowman et Kane qui s'affrontent, donc last man standing. Et donc il y a une place à prendre pour l'Elimination Chamber. Alors, Braun Strowman arrive, il commence déjà à sortir tout ce qu'il y a sous le ring. Là, c'est les tables, les chaises.
Il ne perd pas une seconde.
Même pas une seconde. Hein. Il donne tout de suite au public ce que le public demande. Là, il y a la coupure pub. On revient à l'émission et on est déjà en train de se foutre sur la gueule à l'extérieur du ring. Le Strowman va tenter déjà un power slam. Bon, c'est esquivé. On va dans la foule et à coup de bourre-pif, on va rejoindre la table des commentateurs. Strowman va réussir à foutre à terre Kane. Et puis, comme on est près de la table des commentateurs, ben, pourquoi qu'on ne soulèverait pas tout le plateau des commentateurs et qu'on n'écraserait pas Kane avec ?
Super idée.
Super idée. Voilà. Et c'est le last man standing le plus court de l'univers, ouais. Puisque après, c'est pris toute la plateforme des commentateurs sur la tête. Kane ne se relèvera pas, évidemment.
Je ne sais même pas si la cloche a sonné. Je ne saurais même pas dire si la cloche a sonné.
Je me souviens de l'arbitre qui dit sonnez la cloche, sonnez la cloche, sonnez la cloche. mais donc victoire de Strowman, les urgentistes débarquent, hein, effectivement, on veut évacuer Kane en civière. On revoit Strowman revenir sous le titre en tronc, on dit c'est pas possible, il va pas encore aller attaquer le pauvre Kane. Non, il est stoppé par Corey Graves qui lui fait une interview.
le meilleur moment pour faire une interview, évidemment.
Voilà, c'est ça. Bon, alors, il demande alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'as fait ça Strowman, il explique, moi j'ai fait mon job, Kurt Angle avait dit last man standing, et ben voilà.
C'est ce que j'ai fait, last man standing.
Voilà. Kurt Angle viendra l'engueuler un peu plus tard dans les coulisses, mais finalement c'est Braun Strowman qui va l'engueuler. Il a dit, t'as dit last man standing, donc ce soir c'est last man standing, Elimination Chamber, ce sera last man standing pour moi, WrestleMania, last man standing face à Brock Lesnar. Voilà, Strowman, le patron et le mec le plus intelligent du monde, hein, puisque quand tout lui coûte son permis, tuer son adversaire, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux et de plus radical. Voilà, encore Braun qui fait le coup de poing, spectaculaire, puissant, extravagant, blockbuster. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, je pense que peut-être, comme le dit Maxence sur le chat, à WrestleMania, Braun Strowman il va soulever l'arène.
Ouais, il reste ça encore.
Ou Elimination Chamber a peut-être soulevé la chambre d'élimination.
Je vais voir ça. Et
tuer 72 personnes au passage du public, ouais. Qui vont se ramasser ça. C'est bien qu'on tourne la page, qu'on sorte Ken de l'équation. Voilà, encore un haut fait. Là, ce qui est cool, j'ai trouvé, c'est que le public dans l'arène. C'était en live pour eux, c'était pas quelque chose qu'ils regardaient sur l'écran, qui se passait backstage, une ambulance, un bus, un machin, ouais. Non, c'était devant eux, même si bon, quand on regarde la structure, c'est beaucoup moins impressionnant que le reste, mais voilà, c'est un truc qu'il a réellement fait lui, c'est pas, il n'y a pas un treuil derrière, il n'y a pas une sorte de montage.
Ouais, voilà, c'est pas un montage vidéo, voilà. Il l'a fait en live le bordel, ouais.
Ouais, c'est réellement ça, et puis voir Strowman vociférer, comme dit Galu sur le chat, c'est génial quoi, les explications, c'est ce qu'on m'a dit, la semaine staging. C'est ça quoi.
Et c'est tellement logique.
Qu'est-ce que Kurt Angle panique parce qu'il y a du carnage, du chaos, parce qu'il y a Braun Strowman qui est dans un last man standing match. T'as qu'à le booker, je sais pas, dans un match à soumission. Peut-être que là, ça se passera normalement, convenablement, j'en sais rien. Mais voilà, enfin, c'est très bien. C'était fun. En même temps, ça boucle, je pense, la rivalité qu'il y avait avec Kane. Donc parfait. Et puis que Strowman soit dans l'Elimination Chamber, ça donne. Moi, j'ai bon espoir qu'il y ait un spot lors du pay-per-view, vraiment de la force herculéenne et du chaos, du carnage de Strowman avec Elimination Chamber. Peut-être que je le vois bien démonter un pod d'un mec avant que le mec soit. Avant que le pod soit ouvert, tu vois. Qui démonte carrément la structure en verre qui est du plastique finalement. Et qui chope les mecs et qui les défonce. Enfin, il y a plein de possibilités encore une fois de carnage et Braun Strowman, et c'est génial. Et je pense qu'on aime faire ça. Je sais pas si t'as vu une petite vidéo qu'ils ont fait avec Alexa Bliss, puisqu'ils sont par équipe pour le Mix Match Challenge.
J'ai pas eu, non.
Et il est là, elle est dans un t-shirt à Braun Strowman, genre 10XL, et il l'entraîne pour qu'elle soulève une petite voiture. Une voiture en fait. Ce t-shirt, je l'ai porté, j'ai transpiré dedans, j'ai saigné dedans. Du coup, tu es 30% plus forte qu'avant. On va commencer small sous la voiture. Et c'est n'importe quoi. Et il a un petit côté comique un peu à ce qu'il était Scott Steiner.
Ouais.
Je trouve. Ultra balèze, ultra fort, mais en même temps qui a des promos un peu comiques qui marchent avec le public sans le faire passer pour un guignol pour autant. Et cet équilibre, il est pas facile à avoir, et ils l'ont, j'espère qu'ils vont le garder, parce qu'il est, moi je suis gros fan.
Ah ouais, non, c'est une réussite ce Strowman. Bah écoute, hein, y a des gros projets apparemment hein, pour Strowman
Ah.
d'ailleurs, pour le WrestleMania. Est-ce qu'il va pas piquer le spot de Roman Reigns? On verra bien. C'est tout ce qu'on verra dans cette road vers Mania. Ilias ensuite, qui va nous chanter une chanson. Il nous explique qu'il chante parce qu'il aime le son de sa voix. Il avoue sa déception d'avoir été éliminé par John Cena au Rumble. Mais John Cena aura ce qu'il mérite en temps et en heure, rassurez-vous. Et le futur, c'est WrestleMania. De toute façon, ça passe par l'Elimination Chamber. Il doit d'abord se défaire de Woken Matt Hardy, puisqu'il affrontera ce soir Matt Hardy pour une place dans l'Elimination Chamber. Il nous fait donc une petite chanson avant l'entrée Delightful du Woken One. On retrouve les trois comptes commentateurs là, qu'ils ont plus de table, alors ils ont un petit écran de télé à leurs pieds, ils sont chacun sur une petite chaise, c'est assez ridicule. Et donc on a ce match donc, entre Matt Hardy et Ilias. C'est Matt Hardy qui domine le début de match, à coup de brise nuque, de headlock. Ilias revient avec une grosse lariat, on casse l'épaule de Hardy avec le poteau, on travaille le bras, Hardy revient avec une série de coups de boule, rechaîne les quicks pour le compte de 2, elbow de la deuxième corde, side effect, tombée de 2, on tease un twist of fate, il y a un petit bug lié à Bray Wyatt, c'est l'ouverture suffisante pour Ilias hein, qui place un big boot et un drift away pour la victoire, et le Wyatt arrivera sur le titan tron. Je vais te laisser commenter ça, on me dérange dans la porte du studio.
Mais il n'y a pas de problème.
Et je reviens de suite.
Très bien. Un match assez court, qui était un peu moyen entre les deux, hein, je ne vais pas mentir. Je suis toujours dans l'attente d'être agréablement surpris par le ring, dans l'activité du ring donc du drifter hein, de Elias. Après voilà, qu'il gagne et qu'il aille vers Mission Chamber, je trouve que c'est positif, c'est continuer à lui donner l'exposition, continuer à lui donner des moyens de pouvoir faire ses preuves. En plus, je pense que un match Elimination Chamber peut très bien être l'occasion pour lui de pouvoir un peu briller dans le match, puisque la stipulation, le fait d'entrer dans la cage, etc. Je pense que ça va bien quelqu'un qui n'a pas un moveset très déployé, très développé pour l'instant. Donc du coup, ça c'est cool. Par contre, voilà, le côté Bray Wyatt qui fait perdre son match à Matt Hardy avec juste une interruption de quelques instants sur Titan Tron. Encore une fois, à chaque fois que ça se passe, je trouve ça assez naze. Ça marche pas. Et puis derrière, juste Wyatt qui rigole et puis Hardy qui regarde, qui se met à rigoler aussi. On est encore au niveau zéro de cette rivalité. On est encore au premier stade où les deux font que se marrer, même si je trouve que le Bray Wyatt arrive très bien à être flippant en rigolant tout seul pendant 30 secondes. Mais c'est encore et encore et encore la même chose qu'on a vu il y a 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc maintenant, Matt Hardy n'est pas dans l'Elimination Chamber, j'espère que Wyatt ne sera pas non plus dans l'Elimination Chamber, qu'ils nous fassent leur match à l'Elimination Chamber tous les deux et qu'on close ce truc-là, ou alors qu'ils passent enfin à la seconde, parce que là, c'est pas possible, on végète totalement. Voilà.
Bray Wyatt, il s'est pas arrêté ses rivalités, hein, donc il nous remet une petite couche pour pas grand-chose de plus. On verra bien si on arrive à avoir un match qui vaut quand même le coup d'avoir supporté tout ça.
Ouais. Après voilà, hein, comme on dit là dans le chat, Terrence se dit, ils ont la WWE à récupérer Jeremy Borash. Donc Jeremy Borash est un officiel de la TNA d'Impact, hein, qui était notamment commentateur, hein, mais qui est aussi a une part dans la scénarisation, le créatif, et sur Internet dans tous les histoires qui concernaient le Broken Universe, donc Matt Hardy, Jeff Hardy à la TNA avec Final Deletion. Il semblerait que Jeremy Borash ait eu pas mal d'impact et pas mal d'investissement et de part dans Final Deletion, dans tout le Broken Universe. Donc là, que la WWE le signe, peut-être qu'ils vont le mettre directement sur le dossier Woken Matt Hardy pour qu'il puisse, que les deux, que Matt et lui, puissent retravailler ensemble. Avec les moyens de la WWE, c'est tout ce qu'on peut espérer pour qu'enfin on ait quelque chose qui soit fun et qui prenne un peu plus d'envol que ce qu'on voit maintenant, qui est quand même ras des pâquerettes, quoi.
Ouais. Ah, j'étais pas au courant de la signature de
Ouais.
Borrache, mais
Oui. Puis la WWE a un peu fait une rafle chez la TNA, hein, ces derniers jours.
bah oui, effectivement. Alors c'est lui qui s'occupait clairement de la réalisation de tout ce qui était Final Deletion.
C'est ça.
Il a fait d'autres types de sketchs de ce genre, de segments de ce genre avec Abyss et Grado à la TNA. Bon, ça a fait moins de buzz, mais c'était pas mal réussi aussi ce qu'il faisait avec le Scott Steiner et compagnie. Donc oui, là il y a une grosse patte de ce qui était fait sur la Deletion qui est liée à Borash. Donc
Ouais.
s'il est désormais à la
C'est
WWE,
ça.
effectivement, on va peut-être pouvoir passer à la vitesse supérieure. Voilà, bon. En tout cas, c'est Elias qui sera l'Elimination Chamber. C'est pas gagné pour Matt cette semaine. Le Miz, qui est sur son téléphone pour une petite cheap hit, petite promo façon Facebook, façon selfie. Ce soir, il défend son titre contre Roman Reigns, son titre intercontinental. C'est le rematch des 25 ans de Monday Nitro. Donc, ce match, c'est une grosse domination de Roman Reigns qui expulse le Miz du ring, hein, lui fait manger les escaliers de fer. Le Miz Tourage est là, mais Roman Reigns les fait fuir, pardon, avec une chaise, hein, parce qu'il couvre un peu trop le patron, hein, le Miz Tourage. Il empêche Reigns d'aller l'attaquer quand il est à l'extérieur du ring. Donc, le beau Roman les fait fuir. Il revient, il songe à frapper le Miz avec la chaise. Mais il se reprend, hein, parce que l'arbitre lui dit non, non, fais pas ça, tu vas te faire disqualifier. Mais là, le Miz, lui, il en profite, il lui attrape le caleçon, puis il lui fait manger le poteau à l'extérieur du ring. Et comme ça, il peut revenir dans la partie, un peu le Miz. Après la pub, on a une séquence de à toi, à moi, coup de poing dans la face entre le Miz et le beau Roman. Le Miz réussit à contrer un spear avec un impressionnant coup de bélier dans le genou. Il va enchaîner avec ses yes kicks. Il va contrer une power bomb en s'échappant et en réussissant à piéger Roman dans la prise en 4. Hein, donc Roman qui a déjà le genou affaibli, piégé dans la figure four. Le figure four est retourné par Roman de manière très classique, très old school. Sit-out power bomb de Reigns pour le compte de 2. Le Miz se fait choper par l'arbitre en train de trafiquer le coin du ring. Reigns va essayer de revenir à l'attaque, mais il est écarté par l'arbitre, hein, parce que le Miz est dans le coin du ring, justement, et dans les cordes. Ça, le Miz, c'est l'ouverture qu'il lui faut. Petite fourchette dans les yeux, petit coup en traître. Skull Crushing Finale, on pense que c'est joué, mais non, simplement deux, hein, il en faut plus pour battre Roman Reigns. Superman Punch dans la foulée pour le compte de 2. Le Miz Tourage est de retour. Reigns met des patates à tout le monde, mais c'est le roll-up. De trop, roll-up en traître du Miz pour la victoire. Le Miz qui conserve son titre intercontinental. Match de haut standing. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Bon.
Non, c'est bien, fallait. Bon, ils sont de toute façon toujours coincés avec ces clause de rematch. Je pense qu'ils s'en seraient bien passés, mais ok, normal attendu. On voyait pas Reigns reprendre le titre. Le match était pas mal. C'est pas forcément le match le plus intéressant dans le ring, j'ai trouvé, de leur trilogie, hein, récente. Mais ça reste quand même de bonne facture. Comme d'habitude, l'intervention du Miz Tourage et différentes filouteries du Miz qui pourrait écrire un bouquin là-dessus, hein, dans le ring, lui permet d'emporter la victoire. Ce que j'ai pas compris ou aimé, en fait, en revanche, dans ce match, c'est le moment où Reigns, avec sa chaise, se tourne vers le Miz. On a l'impression qu'il va péter une durite et qu'il va taper le Miz avec sa chaise. Alors qu'il sait très bien, Roman Reigns, pour avoir été dans je ne sais pas combien de matchs de titre dans sa vie, que ça entraînerait la disqualification et donc qu'il ne gagnerait pas la ceinture. Et je sais pas, est-ce que vraiment tu as envie que ton poster boy, que le number one de la compagnie Face, soit un mec qui soit sur le point de massacrer un mec avec une chaise? On sent qu'il lutte avec lui-même. Je sais pas. Est-ce que cette rage qu'il témoigne ici est intéressante pour son personnage? Est-ce que ça apporte quelque chose de plus complexe? Ou je sais pas. J'étais plus dubitatif qu'autre chose en voyant ça. Donc
Oui, surtout qu'on je sais, c'est assez mal amené cette espèce de
voilà.
rage du mec qui craque alors que bon, il a le match gagné quasiment. Roman Reigns, il a C'était bon, on sent que c'est scénarisé le fait qu'il perde et que voilà, il est pas fait pour le titre intercontinental, il y a autre chose pour lui. Mais du coup, ouais, c'est un petit peu forcé, ça apporte pas grand-chose au personnage. Comme j'ai dit, au Royal Rumble, on a bien vu ce qui fonctionnait et on voit bien que toujours Roman Reigns, les gens l'aiment pas et qu'il serait un top heel assez exceptionnel.
Eh ben, je sais même pas, tu vois, c'est-à-dire que ils en sont
Ouais,
tellement
tu penses que ça retournerait le public et que.
c'est ça, ça a tellement été depuis tellement longtemps, depuis tellement trop longtemps qu'on essaie de nous faire adhérer à Reigns, que je suis même pas sûr que s'il tournait heel maintenant, les gens l'adoraient, à moins qu'il soit réellement bon en tant que heel, au micro j'entends, et dans ses mimiques et tout ça, ce que je suis même pas sûr. Parce qu'à l'époque du Shield, première version où ils étaient heel, c'était la powerhouse, mais c'était tout quoi. Il était un peu lisse, c'était un peu fat, je trouve, Roman Reigns. Donc peut-être qu'il sera, il a un talent pour être heel et ça peut marcher. Mais sinon, s'il n'est pas aussi bon en tant qu'heel qu'il est en tant que face maintenant, ça, je pense pas que ça marchera parce qu'il y a un tel rejet d'égout de lui, d'une partie de l'audience tout du moins. C'est devenu presque aussi une mode hein, de pas aimer Roman Reigns, hein, soyons clairs. Donc faut pas, c'est pas que lui. Le public aime ne pas aimer Roman Reigns. Donc en
C'est
fait,
ça.
je pense que c'est même pas du coup dérangeant du point de vue des officiels de WWE par rapport à ce public-là. Tant que les ch'tis enfants qui achètent des goodies achèteront des trucs Roman Reigns, je pense que les smarts dans le public qui bouent Roman Reigns, je pense que Vince s'en fout complètement. Parce que voilà, c'est.
Ouais.
Ils
Ouais,
aiment.
puis ils aiment bien que ça réagisse dans le public, donc que ce soit des huées ou des applaudissements, c'est
C'est
pas
ça,
bien
c'est
grave.
ça.
Après, c'est vrai qu'il y a une raison bassement pécuniaire au fait qu'ils ne tournent pas heel, c'est parce que quand t'es heel, tu vends moins de
Ouais.
marchandises. C'est pour ça que John Cena reste face et c'est pour ça que Roman Reigns reste face aussi.
Ouais. Mais
Et du
voilà, ce côté un peu agressif, je pète un plomb, je suis pas fan parce que ça rajoute rien. C'est à moins d'en faire quelque chose, ça ne sert à rien en fait.
Ouais, c'est ça.
Ça ne
C'est ça.
ça,
Mais
là.
ça, c'est aussi le problème de ces trois mecs du Shield, là, c'est que comme je dis toujours, ils dépassent pas leur truc de ce qu'on leur demande de faire. Et il faudrait que Roman Reigns y réfléchisse à son personnage et qu'il commence à proposer des choses pour avoir quelque chose d'un peu plus concret et qui fonctionne. Là, il se laisse balloter au gré du vent, et du coup, ça fait quelque chose d'un peu fadasse hein, au final, un peu comme le reste du Shield qui sont censés être quand même les trois top guys. Quand t'es top guy d'une compagnie, à un moment donné, il faut que tu t'imposes, sinon bah, t'es à la merci des idées des bookers qui sont pas toujours très, très intelligentes pour toi.
Ouais, maintenant quand t'es à ce point-là top guy comme les Reigns dans les plans de la fédération, est-ce que tu as vraiment de la liberté pour proposer des idées
Ah, c'est là que tu as le plus de liberté.
Tu penses
Quand
quand
tu
t'es
es au
top
top,
guy
bah oui.
face, mais pas encore établi comme un John Cena, comme un Rock l'été, comme un Stone Cold, pas des gens qui sont ultra over de façon unanime, tu vois. Je veux dire, à part, bon, Cena c'est un peu particulier, mais il était tellement polarisant que il est au-dessus, quoi. Puis il est vachement dans le. Il a une crédibilité mainstream qui fait qu'il est ok, quoi. Reigns, je sais pas, il est encore en mode, j'ai l'impression, gestation, quoi. Il est encore en mode projet, machin,
Alors
enfin.
qu'il a main eventé trois fois WrestleMania,
Ouais.
ils peuvent pas faire grand chose de plus pour l'imposer comme le top guy. Donc après, c'est à lui de faire le taf. Hein, mais bon, bah ça restera un petit peu tiédasse, toute
Et
cette histoire.
puis le problème, c'est que de toute façon, quand on l'a mis en face de Cena, on a vu que niveau adlib, ça le fait pas, quoi. Niveau impro, donc aussi c'est ça, quoi. C'est,
Oui,
je
ouais.
pense que ça n'a pas dû rassurer les officiels en disant, ok, on va te laisser la liberté, parce que ben on voit que ça tient pas la distance. Et si tu mets ton top face par rapport à des heels qui eux tiennent la distance, et tu mets face à un Kevin Owens, si tu les mets tous les deux au micro, Roman Reigns se fait ouvrir, soyons clairs. Je pense même contre le Miz. Le Miz au micro en
Ouais.
impro contre Reigns, c'est un carnage absolu. Je pense que ça devient moins 16 ans très rapidement, tellement que c'est violent. Donc c'est ça aussi, c'est qu'ils ont pas, il a pas la confiance, je pense, des officiels pour peut-être proposer des trucs plus dans
Enfin,
l'immédiat.
je l'ai vu, ils ont fait un table for free là, avec
Ouais.
les trois du Shield. Tu sens bien que les mecs, ils ont pas des idées très novatrices qu'ils n'ont pas de plan de carrière établi, que ce soit Rollins ou Ambrose. Comme je dis, c'est des mercenaires, quoi. Puisqu'ils sont là, ils discutent même d'un discours que leur a fait Vince en leur expliquant qu'il avait besoin de leader dans le roster. qu'il fallait commencer à s'imposer, mais ils étaient là, hey, t'as vu, il a dit qu'il faudrait qu'il y ait des leaders et tout, ça serait bien qu'on s'impose, peut-être que machin, donc voilà, c'est pas encore les personnalités, leadership que la WWE aurait besoin, je pense, à l'heure actuelle, vu que Cena, tout doucement, il va un petit peu sur la touche et puis que l'Undertaker est plus vraiment là, quoi.
Ouais, mais encore cette espèce de capitaine du vestiaire versus le top, les top guys kayfabe, donc à l'écran. Pour moi, c'est quand même deux choses différentes. Tu peux avoir quelqu'un qui va être effectivement un peu
Ouais, et justement parce que
le gars.
les patrons
Ouais.
du vestiaire, ils commencent à plus être là.
Ouais, mais
Donc
est-ce
tu
que c'est un
vois.
problème? Je pense que tu peux être patron de vestiaire et pas être très et pas être un top guy à l'écran, et inversement, tu peux être un top guy à l'écran et pas être non plus un buzz dans le vestiaire. Donc je pense que ça, c'est deux choses un peu différentes de mon point de vue en tout cas. Donc moi, ce qui me dérange, c'est ce qui se passe à l'écran, pas ce qui se passe au vestiaire. Vestiaire, à la limite, ça c'est.
Ouais, non, mais je veux dire, ça traduit, si tu veux, une espèce de mentalité qu'ils ont, qui, à mon avis, c'est ce qui leur fait défaut pour s'imposer comme a pu s'imposer John Cena ou le Taker ou n'importe qui précédemment ou Stone Cold. Mais bon, ça c'est le problème récurrent de Monday Nitro. Il faut qu'on avance quand même. Petit match tag team, The Revival affronte Rhino et Heath Slater. Bon, victoire par filouterie et Chatter Machine du Revival. C'est pendant le match, on a des gros plans sur Scott Dawson et Dash Wilder qui discutent ensemble tactique, hein, pour bien montrer que c'est des tacticiens. Et on a Charlie Caruso qui vient les interviewer après le match. Alors, ils expliquent qu'ils viennent de battre les premiers champions de SmackDown, de l'histoire. Et donc il pose la question, comment ça nous place nous par rapport au Graham Brothers par exemple. Donc Charlie Caruso dit, je sais pas qui c'est les Graham Brothers, je suis pas familier de ces personnes. Il dit, ah oui, bah voilà, c'est bien ça le problème, nous explique le Revival, les gens ne connaissent pas le passé, comme le public là qui perd son temps à chanter des chants ECW pour se mettre over lui-même. Voilà, ils vivent dans le passé, le public, mais nous, on apprend du passé, nous disent Revival. Et donc, il faudra compter avec eux dans le futur. Voilà, pas de projet, pas de grand projet de suite pour le Revival, mais ils sont là, ils ont le droit au micro, ils ont une victoire au Rumble face à Gallows et
Ouais.
Anderson. Ils ont été un petit peu humiliés aux 25 ans d'euros. Mais ils ont quand même leur place dans le show.
C'est ça, comme on disait à l'analyse du 25e anniversaire avec Hank, c'est pas grave, ils ont eu le spot effectivement de la mort où ils ont pris les finishers de DX. Mais bon, voilà, c'est pas grave parce que c'est un peu hors storyline toute cette histoire, hein, j'ai l'impression. Et de toute façon, ils étaient partis sur le fait de c'est un restart hein, pour les revivals, hein, même s'ils avaient été intégrés à Raw, ils ont été absents pendant les blessures. Donc là, ils sont partis du principe à WWE que bah, en fait, les gens avaient oublié, le spectateur mainstream hein, avait oublié qui était The Revival. Donc il va falloir reconstruire Revival. Et c'est ce qu'on commence à avoir depuis Royal Rumble. Et c'est pas mal. Il y a eu plusieurs fois des promos. Et backstage et dans le ring, deux fois qu'ils disent nous on est des catcheurs, pas des superstars, pas des entertainers, on est des catcheurs. Voilà, on revit pas l'histoire, on l'étudie. The Revival, donc du coup, ils sont en train de redéfinir qui sont ces deux mecs-là. Comme tu disais, la réalisation du match mettait l'accent sur la stratégie qu'ils établissent tous les deux. Bref, c'est pas mal, qui continue comme ça? C'est très bien. C'est très bien. Et on se fout qu'ils aient perdu de façon squashée au Raw 25. C'est Raw 25 au Madison Center. OZEF. Ce qui est important, c'est ce qu'ils feront là et les semaines à venir. Et là, je trouve que c'est plutôt bien. Ils avaient commencé comme ça quasiment, hein, il y a X mois avant les blessures. Ils étaient sur une belle trajectoire. Il n'y a aucune raison que ce soit pas le cas.
Ouais, c'est pas la peine de les rusher. C'est des mecs
Non.
qui sont là, qui ont l'habitude de faire les piliers dans les shows de la WWE. Voilà, laissons-leur le temps. Il y a quand même des grosses équipes face à eux dans le roster, hein, Sheamus et Cesaro. Ils sont tout aussi tactiques qu'eux, beaucoup plus grands, beaucoup plus de star power. Donc s'ils y vont direct, ils vont se casser les dents.
C'est ça.
Autant y aller doucement, mais sûrement.
Ouais.
J'aime bien un petit peu le fait d'utiliser les discours qu'on trouve sur Internet chez les fans pour faire des promos comme ça colle bien au truc.
C'est clair.
Des équipes de légende, les Dudley Boys sont intronisés au Hall of Fame. Bon, c'est mérité, hein.
Get the tables. Mais oui, c'est mérité. Une équipe, effectivement, une des plus grandes équipes tag team du monde du catch, peut-être une des plus décorées. Voilà, ils ont eu l'honneur de faire un petit retour l'année dernière, il y a 2 ans, à WWE pour mettre over différents talents. On a eu le plaisir de les revoir, voir le dernier Freddy peut-être, hein, donc à Raw 25. Donc très bien qu'il soit le Hall of Fame, ça fera plaisir. Même si je regrette qu'on ait jamais eu ce run en solo de Bully Ray, hein.
Ouais.
Bully Ray, donc qui a été champion poids lourd à la TNA, et j'ai regardé la TNA à cette époque-là, il était très très bon.
Ouais,
vraiment,
ouais.
Son personnage, il était juste fantastique. Donc voilà, petit regret, c'est qu'on n'ait pas eu cette personnalité-là, ce personnage-là à WWE, mais pour tout le reste, chapeau les gars. Les frangins donc de New York resteront dans des grandes mémoires de matchs tag team, notamment à l'époque, je vous rappelle, entre Edge et Christian, les Hardy Boys et les Dudley Boys. C'était un âge d'or du Extreme Tag Team où ils faisaient des matchs échelles de folie, avec des tables enflammées. Enfin, c'était.
Si vous avez
jamais vu ça, regardez un petit peu, vous trouverez des archives sur le network ou sur YouTube, j'en doute pas. Enfin, c'est des très grands matchs.
Ils ont révolutionné la division tag team en leur temps. Effectivement, ouais, je les avais mis en flop, moi, par rapport à leur dernier run à la WWE, mais bon, ça n'efface pas tout ce qu'ils ont fait avant. Ils ont tout gagné à la WWE, à la ICW, c'était des stars. Pilier de la TNA aussi, hein, ils ont tout gagné là-bas. Ça, d'ailleurs, quand ils y étaient, c'est une période où c'était regardable, la TNA.
Oui.
Ce qui est assez rare, hein, effectivement. Et au Japon, ils étaient longtemps invaincus. Je crois même qu'ils sont quasiment invaincus sur le sol japonais à la New Japan. Hein. Voilà, les Dudley Boys, s'il y a bien une équipe qui mérite d'être Hall of Fame, c'est eux. C'est l'heure de la petite promo selfie sur téléphone portable du Baylor Club. Finn Baylor nous explique qu'il va marcher sur John Cena, hein, parce que c'était lui l'Iron Man du Royal Rumble, ouais. Hein, Finn Baylor, et il a été éliminé par Cena, hein, qui a un petit peu gâché son rêve.
Quasiment une heure, hein, 57 minutes.
Ouais, impressionnant. Finn Baylor qui est arrivé en premier. Hein,
en deuxième, mais bon.
Enfin, en deuxième, ouais.
Bon, il n'a pas fait grand chose dans le match après. Mais...
C'est vrai, mais on retiendra les 50 minutes. C'est dégueulasse, hein, ces promos au téléphone là. Il faudrait qu'ils arrêtent, mais j'ai l'impression que c'est devenu la mort.
Alors,
pour un moment.
Oui et non. Oui et non, dans le sens où moi, ce qui me dérange, c'est que ça fait un côté un peu trop social media, Vine, Snapchat, machin, Instagram, vidéo. Et du coup, ça fait un peu. J'ai l'impression que c'est un concours de likes quelque part. Genre, comment un catcheur devient maintenant une ado de 16 ans qui fait des Vine, etc. À la fois, tu te dis quelle est la logique qui est faible pour que des mecs qui sont dans une émission de télé du niveau de la production de la WWE fassent des promos avec un téléphone. C'est un peu étrange. J'aime pas le fait qu'ils mettent aussi le nom juste avant. Parce que ça vient en contradiction avec le côté spontanéité et un peu fait à l'arrache. Tu vois qu'il y a un mec, un moment en montage, qui a mis un écran marqué Finn Balor, marqué The Miz. Maintenant, pour les plus de ça, je trouve que... je ne sais pas si c'est le fait que ce soit des selfies ou pas, mais c'est un peu moins production léchée. Je trouve que c'est un peu moins... parfois, ça sonne un peu moins faux quand ils font leur promo. C'est-à-dire que tu prends la même promo qu'ils ont fait là, et tu l'as fait au milieu du ring ou backstage, avec des lumières, etc., et avec une Renee Young qui vient interviewer, ou une Sasha Fuentes, ou une Charlie Caruso.
Ou en vignette, en gros plan,
voilà.
Comme ça, face caméra.
Ouais, je trouve que ça, avec ce setting-là, ben, tous ces promos-là sonneraient un peu plus faux, un peu plus factice, un peu moins assuré, je sais pas. Je trouve qu'il y a un côté un peu rafraîchissant, un peu comme sur les promos du Mix Max Challenge. Hein. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu plus aussi de liberté pour raconter ce qu'ils veulent? Je sais pas. Dans tous les cas, je trouve que pour l'instant, j'ai pas fait mon avis. Je suis d'accord, il y a des trucs qui font que ça marche pas, mais il y a des trucs qui font que je trouve ça plus cool que les promos qu'ils font habituellement, enfin parfois. Hein. Voilà, donc à voir à la longue.
Après, faut peut-être pas qu'ils généralisent le truc à tout le monde, parce que c'est plus ou moins, ça fonctionne plus ou moins suivant les personnes. Par exemple, avec John Cena, c'est trop ringard, quoi, de voir Cena faire sa promo sur le téléphone.
Oh, je sais pas, je suis pas d'accord.
Je trouvais ridicule, moi.
Oui, mais.
Skate verte et puis.
Ouais,
ouais,
mais ça colle au personnage, quoi. Ça colle au personnage, c'est John Cena, goofy, je fais rire les gens, et voilà, quoi. Il a un visage en plastique, ce mec. C'est pour ça qu'il a marché à Hollywood. C'est qu'il a un visage, ses expressions, s'inscrivent très bien sur sa gueule et je trouve que ça, je trouve que en plus lui pour le coup je trouve que son gimmick colle à ce côté selfie. Pareil, le Miz, ça colle avec ça.
Par contre, je trouve vraiment que Cena est trop vieux pour faire des selfies. Mais bon, on verra avec le temps si on arrive à s'y faire ou.
Exactement.
Ou si ou voilà quoi. Je ne vais pas finir cette phrase. Sasha Banks, elle va faire l'histoire ce soir en mettant fin à la streak de Asuka, pardon. Je suppose que c'était aussi une promo sur téléphone. En tout cas, c'est lors du match. Asuka contre Sasha Banks. Non, elle était interviewée backstage, je crois, Sasha. Mais bon. Alors, le match, incroyable match. Hein. On se torture hein, au début du match. Hein. Des clés de bras par-ci, des clés de bras par-là, des headlocks. Au final, Asuka est envoyée à l'extérieur du ring. Et là, il y a un incroyable topé suicida de Sasha Banks qui est contré par un coup de pied circulaire en plein vol par Asuka. Terrifiante séquence où Sasha s'écrase au sol.
Et c'est à cette séquence-là que j'ai compris pourquoi la WWE insiste pour que leurs catcheuses aient des rajouts. Elles ont tous des cheveux hyper longs, rajouts. Parce qu'en fait, quand Sasha Banks se prend le coup de pied après son suicide dive par Asuka, forcément, elle a la tête qui tombe vers le bas, donc elle tombe sur le sol. Et on a l'impression que la tête percute le sol. Mm-hmm. En fait, non, c'est juste comme elle a 80 cm de cheveux, c'est ses cheveux qui percutent le sol. Elle avait encore bien 20 cm de marche pour la tête. Elle attend de tourner en ça. Mais il n'empêche que le spot, il est impressionnant. Je l'ai regardé plusieurs fois vraiment en disant putain, mais c'est pas possible. Et en fait, je pense que c'est ça. C'est vraiment du coup la chevelure qui touche le sol largement, qui nous donne l'impression visuellement que genre, ça y est, elle s'est massacrée quoi. Ça amplifie en tout cas. Je sais pas si c'est pour ça qu'il met des rajouts, mais en tout cas, là pour le coup, ça amplifiait le côté presque horrible, un peu car accident de voiture quoi. Tu dis c'est moche, mais je veux me le revoir quoi parce que voilà.
Mais je crois que ça c'est le talent de toute Sasha Banks hein, de faire croire que c'est un truc qu'elle a improvisé, qu'elle a pas maîtrisé et qu'à mon avis elle a dû répéter une paire de fois.
Un spot que tu fais naturellement alors que c'est un spot qui est chronométré au poil, c'est ça qui est quand c'est bien fait, t'as l'impression que c'est l'impro.
Je pense que c'est tout le talent de Sasha Banks hein, qui s'exprime. Mick Foley a même gueulé, enfin envoyé un message sur Twitter en disant qu'il fallait plus jamais refaire ça. Je vais pas rentrer dans cette polémique. J'ai pas envie d'engueuler Sasha Banks pour avoir fait un spot comme ça. J'ai l'impression quand même qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ouais.
Il faut y laisser faire. C'est son style de catch. Après, elle a déjà eu des blessures. Elle aura des blessures certainement dans le futur. Je ne souhaite pas, mais il y a quand même de fortes chances avec le nombre de matchs qu'ils font par semaine que ça arrive. Mm-hmm. Mais après, c'est à eux de gérer aussi leur carrière.
Ouais, exactement. Donc après, on ramène Sasha dans le ring hein, quand même. Le match continue. Alors Asuka, elle va pas y aller de main morte. Hein. C'est parti pour un gros coup de genou dans la face, écrasement comme ça, du visage sur le genou. Sasha va quand même essayer de tenter un roll-up pour le compte de deux. Elle est prise dans un armbar, mais c'est cassé parce qu'elle réussit à atteindre les cordes. Là-dessus, Asuka va tenter son hip attack, là, son coup de fesse dans les cordes, mais c'est esquivé par Sasha Banks et Asuka va s'écraser à l'extérieur du ring. Deuxième gros spot du match. Là-dessus, Sasha Banks va se lancer dans sa célèbre double descente des genoux. Donc, une fois à l'extérieur du ring, on remet Asuka dans le ring, on lui refait la même chose depuis le coin du ring. Alors, là aussi, on a bien cru qu'elle avait écrasé la face d'Asuka avec son genou. Mais non, ça passe à côté, c'est quand même très bien fait, mais ça reste très impressionnant. Simplement deux hein, pour le tomber après cet écrasement des genoux. Là-dessus, Asuka a réussi à reprendre l'avantage, elle place son Asuka Lock, c'est contré en Bank Statement, mais c'est recontré en Asuka Lock. Et là, Sasha est piégée, elle est obligée d'abandonner. C'est la victoire de Asuka, la streak n'est pas brisée. Gros plan sur les larmes de Sasha Banks qui est à bout de force au milieu du ring.
Énorme ce plan, énorme.
Énorme, énorme.
Le match énorme, je vous dis, meilleur match féminin de l'année pour l'instant et peut-être un des. Quand c'est la dernière fois que dans un weekly à Raw, à SmackDown, on a eu un match féminin de cette qualité?
Oui, ça doit remonter à l'année dernière. Hein.
En mémoire, on va penser au Charlotte versus Sasha, False Count Anywhere pour le titre. Et si tu enlèves un match sans titre. Quand c'est la dernière fois qu'on a eu un match sans titre féminin à un weekly de cette qualité-là?
Ouais,
je sais ouais. pas. C'était dingue. L'opener du show, la tension qu'il y a entre les deux dans le ring, elles sont quasiment face à face, Stéphanie qui les sépare. La promo, donc du coup, la petite interview de Sasha Banks, c'était René Young qui l'a faite dans la Gorilla Position. Juste avant qu'elle rentre.
Ouais, et juste avant qu'elle rentre dans le... Oui, voilà.
Et ça,
c'était nouveau.
C'est cool.
C'était...
Ça, c'est cool. Il avait déjà fait, je sais plus quand, à quelle occasion, à WWE récemment. Mais ça, c'est cool comme show interview parce que c'est vraiment du. Tu sais que c'est du live. C'est pas un truc enregistré il y a 3 heures. C'est vraiment du live parce que t'entends la musique, elle rentre et boum. Et ça donne vraiment un bon effet. La détermination qu'elle avait, Sasha, était bonne. Asuka, c'est elle la reine du Strong Style. Hein. C'est pas Nakamura, hein. le roi du Strong Style. La WWE, c'est Asuka. Elle a démontré, s'il fallait encore le démontrer. Les transitions entre le Bank Statement et la Asuka Lock étaient juste parfaites. Le spot de Sasha, l'intensité du match. À un moment donné, j'ai cru plusieurs fois que Sasha allait gagner, que la streak était terminée. Ils ont réussi à me faire croire que la streak d'Asuka était ce soir terminée. Alors tu te dis, ok, KFAB, ils vont la faire durer. Mais non, là, putain, ça y est, c'est maintenant, quoi. Bref, c'était génial. Et puis ce plan de Sasha, donc avec la larme sur le côté.
Ouais, magnifique, magnifique. Et encore une grosse défaite pour elle, mais...
Défaites comme ça, c'est pas grave. Et tout ça me fait dire, continuer comme ça à la mettre Sasha Hill Bank, enfin boss quoi. C'est son catch aussi s'en est ressenti, j'ai l'impression.
Et puis il faut qu'elle soit dans les grands événements parce que c'est quand même une des meilleures catcheuses au monde. Alors forcément, Asuka a énormément de talent, mais il faut jamais oublier que Sasha Banks, elle est exceptionnelle. Ça fait plaisir de voir un match de cette qualité là. Et puis c'est magnifique quand on a la haute définition de voir Asuka et Sasha Banks en même temps dans le ring avec leurs cheveux violets de toutes les couleurs là et leur tenue. Je trouve ça très 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 joli. Voilà, grand match féminin. Tout ça a été booké à la perfection. C'est vraiment une belle réussite. On sait toujours pas qui Asuka va affronter. Toujours pas fait son choix pour Mania.
C'est pas grave. De toute façon, elle a dit que avec le Elimination Chamber match pour le title de Raw, on saura que je pense à l'Elimination Chamber.
Ouais, exactement. Alors après, c'est l'heure du Facebook Time avec Cena. Hein, donc, moi j'avais noté que c'était la promo la plus ringarde de l'année, mais apparemment c'est pas un avis partagé.
Bah si, je trouve que c'est ringard, mais pour moi le personnage de John Cena aujourd'hui en 2018 est ringard parce que c'est le mec qui est bien trop vieux pour les freins qu'il porte, pour comment il parle. C'est en gros le mec de 40-50 ans qui essaie d'être cool avec les kids, quoi, tu vois. Et c'est genre, hey mec. Ouais. Arrête.
Ça commence à faire un petit peu bizarre.
Ça se voit les cheveux blancs, quoi. Tu vois, c'est. Ouais.
Ce mec a. Enfin, en plus, il est en tout en vert criard là, vert fluo. Ah, c'est quand même difficile à porter.
Il file the glow, hein, Cena. Il file the glow. Ouais. Hein.
Il file the glow, exactement. On reviendra sur Cena parce qu'il est dans le main event. Hein, il affronte Finn Balor pour une place à l'Elimination Chamber. Là, c'est l'heure d'un match pour le championnat tag team. Tenez-vous bien, The Bar affronte Titus Worldwide, parce que souvenez-vous, Titus Worldwide a 2 victoires à son actif contre The Bar. Alors, le coach, hein, Jonathan Coachman, nous apprend qu'il est représenté par Titus Worldwide, hein, depuis quelques mois, ce qui explique pourquoi il est revenu à la WWE, mais les autres commentateurs peinent à le croire. Hein, c'est sûr que c'est à cause de ça. On a du mal un peu hein, à vendre le Titus Worldwide de la part des commentateurs. Le match, on isole Titus O'Neil jusqu'au tag de Cruz hein, qui enchaîne les standing moonsault. Il va faire le tomber pour un compte de 2. Il y a pas mal d'enchaînements de fous après de ce bon Apollo fucking Cruz, dont un Hurricane Rana complètement botché qui est vendu comme une powerbomb par Michael Cole. Ensuite on met Apollo l'épaule dans le poteau hein, et puis White Noise pour la victoire de The Bar. Un match évidemment handicapé par Titus hein, qui s'est toujours pas catché. Cesaro fait tout pour faire quelque chose de bien avec ce bon vieux Titus. Apollo Crews c'est toujours transparent, il aura beau faire toutes les pirouettes qu'il veut. Belle victoire de The Bar. On espère que Sheamus n'est pas blessé. Quelque chose à dire sur ce passage?
Pourquoi c'est un title match? Ils ont déjà défendu leur titre, ils ont gagné hier. Donc de base, il y a déjà un rematch de la part de Rollins et Jordan, même si Jordan est blessé, on n'a pas parlé. Mais en gros, pourquoi un title match là, lendemain de Royal Rumble? Non.
Ah, c'est ce que souligne Coachman,
Non,
mais
voilà, ça n'a aucun sens. Et ouais, non, le botch était bien sale. Surtout que voilà, Sheamus, il est blessé au niveau du cou, du dos. On ne sait pas pour combien de temps il en a. Faut faire gaffe à ce genre de prise, quoi, parce que ça va encore qu'écourter sa carrière et ça, enfin, non,
Et puis on sent
c'est.
qu'il s'est fait mal hein, sur ce coup-là. Et pourtant, il est retourné tout de suite dans la partie, mais on voyait
Bah,
qu'il
il
était.
assure.
Ouais, il assure le rame.
Donc voilà, là, petit carton quand même.
Ouais, petit carton pour ce match qui n'était pas nécessaire du tout.
Non.
Et ben voilà le main event, John Cena contre Finn Balor. Alors John Cena débarque au ring, il parle à la caméra, il nous explique d'une manière ou d'une autre, je serai à WrestleMania. Comme si on en doutait, hein. Pas de place pour John Cena à Mania.
Non.
Bon, avant que le match commence, hein, le public continue à reprendre en chœur des chants à la gloire de Marty Scurll.
Ouais.
Faire attention quand même à ce qu'on chante. Bon, des headlocks, évidemment. Des épreuves de force hein, de Cena qui est quand même perturbé par la foule qui ne cesse de le huer. Alors, il est là, il leur parle, il leur dit « Mais je veux juste aller à Mania, moi. M'engueulez pas. » Visiblement, une beach ball party hors champ qui distrait un peu la foule. Le Five Knuckle Shuffle est contré. Un shotgun dropkick tenté par... Par
Baylor.
Finn Balor et contré par une corde à linge. L'attitude adjustment est placée de force par Cena hein, qui attrape au vol Balor et qui le place bon an mal an dans le AA. Tu veux pas te
Le
le prendre,
AA.
tu vas te le prendre quand même. Mais c'est pour le compte de deux. Finn Balor réussit à s'en sortir. La foule eut Cena de plus belle. Le coup de grâce est contré. On place Baylor dans le STF. C'est cassé parce qu'il arrive à atteindre les cordes, Baylor. Baylor est visiblement blessé au genou. Il s'est mal réceptionné sur son coup de grâce contré. John Cena réussit à l'attraper. On l'emmène en haut du coin du ring. Le super attitude adjustment. Baylor ne se relèvera pas. Compté de 3, victoire de Cena. Voilà, donc on se retrouve avec Strowman, Elias et Cena pour l'Elimination Chamber. Cena qui a vraiment été beaucoup chahuté par la foule, encore une fois. Le free agent. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event?
Très bon main event, grosse affiche, gros match. Bah, écoute, après le résultat il est ce qu'il est, mais dans tous les cas, même si c'est une défaite pour Finn Balor, quelle défaite! C'est un peu comme Sasha Banks, quoi. C'est le genre de défaite que tu as envie d'avoir. Il se prend un titre adjustment, il kick out, il est dans le STF après avoir une jambe blessée, il réussit à choper les cordes, à renverser la situation. Il casse son finisher, mais on voit qu'il est diminué. Donc John Cena se relève. Il est obligé de lui mettre le Avalanche Attitude Adjustment. Il y a qui se relève du Avalanche Attitude Adjustment? C'est généralement, si je crois, AJ Styles a fait, il me semble, mais voilà.
Ouais, il faut vraiment que
C'est
ce
bon.
soit dans pay-per-view.
Exactement. Voilà. Généralement, c'est des séquences de Cena qu'on voit en pay-per-view. Donc se faire battre par le super Cena de pay-per-view en main event d'un weekly, c'est pas une défaite dans laquelle il faut rougir, quoi. Il faut pas avoir honte de cette défaite. Voilà. Après, on peut toujours dire, bon, oui, c'est un peu bizarre. Cena, il n'a pas besoin de ça pour être à Mania. Mais de toute façon, enfin, qui croit que Cena va gagner l'Elimination Chamber? Personne. Balor, il aurait gagné l'Elimination Chamber? Non.
Non.
Même s'il avait gagné, il aurait gagné contre Lesnar à Mania? Non. Eh ben, très bien. Faites-le perdre en weekly contre Cena. Qu'on montre le taulier Cena qui déploie tout son arsenal pour se débarrasser de Balor. C'est très bien, je trouve que c'est limite. En fait, je trouve que c'est le meilleur truc à faire pour Baylor. À partir du moment où tu es dans cette situation-là, faut pas qu'il aille à l'Elimination Chamber, faut pas qu'il fasse ça, parce que dans tous les cas, ça sera une défaite qui sera moins iconique que celle-ci, je trouve. Et le public s'en est pas trompé, parce qu'on n'a pas qu'entendu des gens dire Let's go Cena, Cena sucks. Il y avait des gens qui disaient Let's go Baylor. Quand
Exactement.
c'est rare aussi dans les matchs où il y a Cena qu'on entende un chant pour le mec d'en face. Bien sûr, c'est arrivé avec AJ Styles, c'est arrivé à Nakamura, mais ça arrive rarement, quoi. Ça reste sur les top guys. Donc je trouve que tout ça continue de montrer, mais ça c'est parce que j'ai envie de voir ça, parce que j'ai envie de voir Baylor monter vraiment à la top card et s'y installer, mais qu'on le pousse encore plus, en plus, en plus. Et encore une fois, ce plan de fin de match où on le voit blessé, défait, mais qui. Je trouve que ça met une emphase dans la réalisation qui n'est pas anodine. Comme on avait fait quand il avait perdu contre Rollins longuement après le curb stomp, après l'intervention de Jordan, on refait la même chose un peu là. C'est pas anodin. Donc du coup, je suis pas en drame parce que Baylor a perdu, loin de là. J'ai trouvé étrange le fait que Cena dise au public, mais ouais, c'est pas ma faute, je veux aller à Mania. Je sais pas aussi, c'est quoi le but de cette interaction-là avec le public? Est-ce que c'est
Ah,
genre,
c'est
m'en voulez pas pour le booking, c'est pas moi qui décide d'enterrer Baylor, c'est comme ça, c'est étrange.
Ouais, bah voilà, il fait toujours son jeu avec le public, Cena. Il aime bien discuter avec sans essayer de se mettre à dos, de se prendre pas trop au sérieux.
Maintenant, Shinsuke, maintenant! Il discute avec tout le monde.
Non.
Mais
Mais
ouais.
c'est le problème de Cena dont il refuse toujours de changer l'alignement et de le faire tourner heel. Ce serait excellent s'il devenait le top heel de la fédération, mais vraiment un top heel dominant qui joue des politiques, etc. Mais malheureusement, je pense
Un
qu'ils n'oseront
triple H,
jamais
tu
le
veux
faire.
dire?
Ouais, voilà, un
Qu'il
truc
devienne
dans le
triple
genre.
H?
Voilà, t'as Hogan version NWO, tu
Ouais,
vois,
ouais.
qui veut absolument être le top guy de la fédération, d'être faire le main event de Mania, et qui a une corporation dans la corporation, quoi, tu vois.
Ouais. Après, voilà, que Cena soit dans l'Elimination Chamber, je pense que ça va aider à continuer à monter la rivalité qu'il a avec Elias. Elias est dans le Chamber, donc très bien. Ni l'un ni l'autre ne
Ouais,
vont gagner la chambre.
ça
Donc,
peut.
ils sont là tous les deux pour se péter encore plus la gueule et monter un programme pour Mania, j'imagine peut-être, à moins qu'il y ait un Balor Club qui s'infiltre dans la chambre et qui décide d'en sortir Cena et de lui faire perdre. Pour
Ouais,
un. Je sais pas.
nouveau Cena Baylor à Mania, ce serait pas mal. Cena Baylor Club, C-Nation contre Baylor Club. Ouais, comme on disait, un Cena Elias, c'est un peu cheap comme affiche pour du Mania.
Bah, en pré-show de Mania, écoute.
pré-show. Non, il y a aussi de grosses rumeurs sur un Taker Cena, encore une
Ouais, non,
fois.
mais non, 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 ça faut jamais. Stop.
Jamais, tu crois
Jamais.
pas?
Non,
Je suis pas trop contre, hein,
moi, le
mais.
taker, non, non, pas
C'est
possible.
vrai.
Arrêtez.
Alors pense à nos amis qui vont voir Mania en live, s'ils peuvent avoir une entrée du
Justement,
Taker,
justement,
ils passeront pas dessus.
l'entrée, ok, mais pas un match. Pas un match. C'est
À voir,
stop,
à
stop,
voir.
stop, stop,
C'est
pas possible.
tout est question de.
Non,
Bon, on
non.
verra bien pour la suite. Ne nous fâchons pas sur une si belle idée. En tout cas, voilà, Iron Man match du Rumble, main event pour Baylor, malgré la défaite, visiblement. Il fait partie des hommes sur lesquels il faut compter.
Seul au bon tableau, quand même, Gallows Anderson qui sont là pour l'intro, pour faire le tout de suite avec lui dans le ring. Et après, pendant tout le match, ils sont repartis, ils étaient en train de bouffer du popcorn, aller sucrer les fraises, on sait pas, mais ils étaient pas là. Donc, je trouve ça un peu débile de les faire venir juste pour faire l'intro, qu'ils repartent,
Ouais, bah, il faut imposer le Baylor Club, hein. Ils ont décidé de
c'est.
vendre
Ouais.
des t-shirts Baylor Club. Donc,
Ouais.
il faut que ça représente quelque chose quand même. Donc voilà, les grands absents de cette semaine, hein. Ronda Rousey, bah, elle sera là la semaine prochaine. C'est annoncé. On n'a pas vu Rey Mysterio, qui était au Rumble, mais bon, apparemment, il a des dates, voilà, à honorer. Donc, il y a de fortes chances qu'il revienne, mais pas tout de suite, tout de
Non.
suite. Et pas de Cruiser. Les
Non.
Cruiser ne sont pas
Pas de
là.
cruiser, puisqu'ils auront de toute façon au lendemain à 205 Live la nomination de leur nouveau general manager qui adressera la situation quant à la ceinture. Donc, comme quoi on peut faire un show de road 3 heures sans les cruisers qui est très bien, il suffit juste d'avoir des matchs excellents et
C'est
laisser du
ça,
temps.
exactement. Exactement. Est-ce qu'ils nous ont manqué, les Cruiser? Alors,
Là.
si vous ont manqué, n'hésitez pas à le signaler dans
Ouais.
le chat ou en commentaire. Est-ce qu'on peut se permettre de griller 205 Live, qui est
Ouais,
le votre general manager?
on va le faire.
Allons-y. Alors, comme
Ouais.
je vous avais dit, hein, un ancien de la WWE qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ni plus ni moins que Drake Maverick, a.k.a. Rockstar Spud. Donc effectivement, mes informations étaient complètement erronées. C'est un transfuge de la TNA qui est là, un peu un Anglais, hein, branché Comedy Wrestling, qui est vraiment tout petit. Hein, ouais. Il fait une tête de moins que Drew Gulak, hein, quand même. Donc voilà. Bon, un petit peu l'indifférence générale quand il est arrivé. On a eu quelques chants Spud. Il a été présenté par Daniel Bryan, hein, dans le show. Mais bon, c'est un mec quand même qui a un acting qui est assez solide, qui sait faire marrer le public. Il peut peut-être s'en sortir dans son rôle de general manager. Je sais pas si pour toi c'est une déception ou si au final peu d'intérêt.
Non. Après, bon, voilà, il aurait pu être catcheur aussi. Hein. Enfin, je pense qu'ils vont, à mon avis, il va monter sur le ring parce qu'il a, oui, il a été beaucoup manager évalué à CNA, mais c'est quand même un catcheur aussi, donc du coup ils auraient pu, je pense que voilà, ça allait faire le double emploi, même si j'aurais bien aimé voir moi en GM Shane Helms, qu'on avait revu en tant que Hurricane la veille à Royal Rumble, et je disais à IRM quand on va de Royal Rumble ensemble avec Giscal et les potes du cahier du catch, ce serait trop cool d'avoir Shane Helms en General Manager de 205 et d'avoir The Hurricane en tant que compétiteur. Et j'ai un côté identité secrète, c'est mon super-héros, et qui nie que ce soit lui. Et j'aurais trouvé ça super drôle, et un côté un peu fun, un peu comics, un peu pulp, que 205 peut générer parfois avec ce côté super flips. Donc voilà. Mais bon, pourquoi pas Rockstar Spud, de toute façon. Voilà.
Ouais, ça ou autre chose, c'est pas bien grave. Et bon, il faut savoir que pour déterminer le nouveau champion Cruiserweight, on lance un tournoi à 16 participants qui culminera à WrestleMania. Le champion sera couronné à WrestleMania. Les matchs pour cette semaine, c'est Cédric Alexander contre Grand Metalik et Tyler Bate, l'anglais, l'ancien champion UK, contre TJP, l'ancien gagnant du Cruiserweight Classic, premier champion Cruiserweight de l'histoire. Donc les deux finalistes hein, du Cruiserweight Classic sont dans les deux premiers matchs.
Ouais.
Ce que je sais, c'est que Alexander a gagné contre Grand Metalik. J'ai pas vu encore le match TJP, Tyler Bate, donc je ne sais pas. Je ne peux guère vous en dire plus. On vous tiendra peut-être informé des résultats au fur et à mesure du tour.
On verra à Raw la semaine prochaine, j'imagine. On verra des trucs.
C'est ça, c'est ça. Sauf s'ils ont abandonné le fait d'avoir les cruisers à Raw. Ouais. On verra bien. Voilà, bon, on a fait le tour. C'est l'heure du mot de la fin. Un top, un flop, une note. Amiral.
Mon top, Sasha Banks, Asuka. Juste peut-être même plus Sasha Banks que tout, parce que je suis tellement content de la revoir comme ça, quand j'en ai parlé, que vraiment génial. Mon flop, le title shot pour Titus Worldwide, juste what the fuck out of nowhere. Ma note, un très solide 4, hein, c'était un Raw, il y a des très bons matchs, le Miz Reigns, Sasha Banks, Asuka, Balor, Cena, nouveau packaging vidéo, logo qui sont cool, l'arrivée de Coachman, ça fait du frais, l'arrivée de Ronda Rousey, on sait qu'on va avoir du gros storyline et de la grosse star power. Non, pour le premier Raw de la Road to WrestleMania, si celui-ci va servir de donner le ton, ma foi, mais quelle belle route pour Mania on va avoir, parce que j'espère que la semaine prochaine sera aussi bien que ça, parce que c'était juste, j'aimerais avoir un Raw comme ça toutes les semaines, quoi.
Exactement, très très bon Raw. Je vais te rejoindre sur la note, hein, un bon 4. Mon top, alors je vais pas le donner à Sasha Beck, je vais le donner à Braun Strowman, qui a été encore une fois spectaculaire. Le flop, je vais le donner à la promo de John Cena au téléphone, hein, je vais rester sur mon idée, et donc un bon 4. Comme tu dis, si ça donne le ton de cette route vers WrestleMania, on est bien placé. En tout cas, on part avec beaucoup d'optimisme. J'ai l'impression que il y a eu un peu des recadrages et qu'on va miser un peu sur les mecs qui fonctionnent.
Surtout de les faire faire ce qui fonctionne.
Voilà.
C'est ce qu'on fait avec Balor et le Balor Cup depuis quelques semaines. Là, Sasha Banks, c'est ce qu'on fait et ça marche de suite.
Ouais, d'ailleurs, on n'a pas vu non plus Rollins et Jordan qui est Donc tout le passage, tout le match au Royal Rumble avait un peu généré l'indifférence du public. Il y a un positionnement dans la carte qui joue beaucoup, mais c'est quand même un peu triste que cette intrigue qui est un peu l'élément central de Raw génère aussi peu de réactions de la part du public. Ça explique peut-être pourquoi on les a pas vus cette semaine. Mais bon, je pense qu'ils finiront quand même l'histoire de Jason Jordan. Sachant qu'il est blessé de toute façon. Voilà, tout ça, on verra dans les semaines qui viennent. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Cahier du Catch. Non, Catch Up. Voilà, Catch Up. On est sur PodCloud, on est sur iTunes. On est sur Twitter, c'est CatchUpCDC, Facebook, c'est CatchUpCDC. Vous nous retrouverez donc pour le supplément SmackDown. Enfin, ce ne sera pas nous, hein, ce sera nos amis du supplément IRM et Giscal, je suppose. Incessamment sous peu. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les alertes. Commentez, mettez des likes, hein, etc. Amiral, merci beaucoup d'être venu.
Bah, je t'en prie, merci à toi et à tout le monde sur le catch, sur le catch, sur le. Chat,
le chat. J'en eh oui,
mes mots.
Les amis, merci à tous ceux qui étaient là pour le live et puis qui ont discuté sur le chat. On espère que l'émission vous a plu. NXT tout seul aussi ce dimanche avec Hank pour le NXT, hein, le résumé, l'analyse NXT. Et voilà, il me reste plus qu'à vous remercier beaucoup encore une fois. Et puis je vous dis à la semaine prochaine si Dieu le veut. Ciao, ciao.
Salut.